Le réseau Afrique Santé de la Voix de l'Amérique propose.
Votre santé, votre avenir.
Votre santé, votre avenir est exclusivement axé sur la lutte contre le sida en RDC.
Au micro, Khalil Gueye, votre santé et votre avenir commencent maintenant. Le terme VIH désigne le virus de l'immunodéficience humaine et lorsqu'une personne est infectée par ce virus, celui-ci va détruire progressivement certaines cellules qui coordonnent l'immunité, c'est-à-dire les défenses de l'organisme contre le microbe. Quand le virus vit encore dans le temps, ces cellules deviennent de moins en moins nombreuses et l'immunité est de moins en moins efficace. Des maladies de plus en plus graves peuvent alors se développer. Ce sont ces maladies qu'on appelle très souvent des maladies opportunistes parce que plus elles sont dans le corps, plus la personne est exposée au développement du virus. Et pour en parler, nous avons notre spécialiste depuis la RDC.
Docteur Émile Ngoyo, chef de section partenariat au PNMLS, programme national multisectoriel de lutte contre le sida, et je suis heureux d'avoir participé à cette émission.
Docteur Ngoyo, bienvenue sur l'émission.
Merci Camille, je salue toutes les auditrices et tous les auditeurs de la Voix de l'Amérique, et particulièrement ceux de la votre santé, votre avenir. Merci.
Merci docteur. Et nous aurons aussi comme auditeur Alain Botoukou, qui va développer bientôt notre réseau des auditeurs de Votre Santé, Votre Avenir en RDC. Alain, bienvenue sur l'émission.
Merci, mais je vais commencer par saluer tous les auditeurs de la Voix de l'Amérique, mais surtout hein, ceux qui sont attachés à cette émission, à Votre Santé, Votre Avenir, qui est une des émissions la plus suivie à la RDC, parce que ça parle des problèmes qui touchent toute la communauté.
Merci Alain. Vous gardez la ligne, tous les deux, nous nous retrouvons dans un instant. Docteur Ngoyo, lorsqu'une personne a une ou plusieurs maladies de ce type, c'est-à-dire de type opportuniste, on dit qu'elle a le sida, c'est-à-dire le syndrome d'immunodéficience acquise. Est-ce que vous pouvez nous renforcer encore sur justement la définition de cette maladie?
Merci Khalil pour la question. Mais disons que le syndrome d'immunodéficience acquise, donc en abrégé SIDA, est c'est un terme qui est utilisé pour en fait exprimer, n'est-ce pas, l'ensemble des affections, l'ensemble des pathologies, l'ensemble de maladies, n'est-ce pas, qui surviennent du fait, n'est-ce pas, de l'infection par un virus qu'on appelle le VIH, c'est-à-dire le virus de l'immunodéficience humaine. Donc, lorsqu'une personne, par diverses voies, attrape, n'est-ce pas, ce virus, ce microbe, il s'établit cette infection. Et à la suite de cette infection, dans son évolution, elle va donc atteindre un stade beaucoup plus avancé qu'on appelle stade sida ou stade maladie. Le sida, c'est traduit en fait plusieurs infections, plusieurs maladies, plusieurs pathologies donc, qui peuvent s'exprimer du fait de l'affaiblissement du système de défense, donc du système immunitaire. Mmh. Donc voilà ce qu'on peut attendre par le sida. Donc un stade beaucoup plus avancé de l'infection provoquée par le VIH et donc qui se traduit par plusieurs sortes de maladies.
Donc le VIH est le virus qui affaiblit les défenses de l'homme, de la personne, et ces défenses affaiblies peuvent ouvrir les portes à des maladies opportunistes qui peuvent être nombreuses dans le corps. Une fois qu'elles sont nombreuses et qu'elles sont aussi puissantes, on a ce qu'on appelle le sida.
Tout à fait.
Quelle différence y a-t-il entre l'infection par le VIH et le sida?
En fait, le sida, c'est ce que nous pouvons dire schématiquement, l'état de maladie. Et l'infection, c'est, disons, au moment où les microbes qui provoquent le sida entrent dans l'organisme, n'est-ce pas, d'un être humain. Donc c'est ça la différence. De le moment où le microbe du sida est présent, pénètre dans l'organisme, on parle de l'infection par le VIH. Mais le sida, c'est quand il y a des manifestations qui s'expriment, donc les manifestations ou les signes de différentes infections, maladies dites opportunistes, opportuniste tout simplement du fait de l'affaiblissement du système de défense. Alors, si cette maladie se manifeste, c'est alors qu'on parle du sida. Mmh. Mais lorsqu'il y a seulement la présence du microbe, c'est l'infection par le VIH. Lorsqu'il n'y a pas encore des signes des maladies dites opportunistes qui se manifestent.
D'accord. Je passe la parole à notre auditeur, Alain Botoukou. Alain, vous avez une question pour le docteur Moyo, s'il vous plaît?
Oui, je vais poser la question au docteur Moyo, que je connais très bien, que j'ai vu il y a longtemps. Docteur, comment vous, parce que vous avez bien défini le sida, mais aussi le virus qui cause cette maladie, mais je n'ai pas compris comment vous n'avez pas parlé des personnes séropositives. Que dire de ces personnes-là? C'est la petite première question. La deuxième, c'est vous pensez que du jour au lendemain, on peut avoir un médicament qui puisse pouvoir guérir le sida? C'est deux petites questions que je voulais démarrer l'émission.
Voilà, merci pour la question. Un séropositif, une personne séropositive est une personne qui a subi donc le test de dépistage de l'infection à VIH, ça veut dire le test par lequel on cherche à déterminer la présence, n'est-ce pas, du virus qui provoque le sida. Et ce test se fait généralement donc sur le sang. Que le liquide biologique qu'on recouvre, c'est le sang, donc une partie du sang qu'on appelle le sérum. Et lorsque dans ce sérum, dans le sang, on détecte la présence des anticorps que le corps produit du fait de la présence du virus dans ce sang, on dit que le test sur ce sérum est positif. Mmh. D'où la séropositivité. Je ne sais pas si j'ai été assez clair. Séropositivité, c'est la signe, la présence des anticorps anti-VIH ou des anticorps que le corps produit contre la présence, n'est-ce pas, du virus. Lorsque ces anticorps se révèlent présents, on parle de la séropositivité. Mmh. Alors, il faut se garder de dire que il n'y a pas que la séropositivité dans le cadre de l'infection par le VIH. Il y a d'autres maladies, notamment, on peut faire de la sérologie, n'est-ce pas, dans le cadre des hépatites et d'autres pathologies virales. Là aussi, on peut parler de la séropositivité. Donc, ça veut dire la présence des anticorps dirigés contre le virus dans le sérum. Mmh. Hein, donc, mais dans le contexte qui nous concerne ce soir du VIH, lorsqu'on dit d'une personne qu'elle est séropositive, ça veut dire que son sang regorge, n'est-ce pas, des anticorps dirigés contre le virus qui provoque le sida. Mmh.
Deuxième question de Alain Botoukou, c'était par rapport à l'espoir de trouver un médicament contre le sida. Qu'est-ce que vous en dites, docteur?
Ah oui, donc la question de notre frère est très intéressante. Et ça doit être au cœur même de recherches scientifiques qui sont en cours.
Mais ce qu'on peut dire, c'est que, vous savez, avant 1996, lorsque le médecin a diagnostiqué, dépisté une personne séropositive, donc lorsqu'on était en face d'un malade du sida, on était quelque peu dégarni, un peu désarmé, parce qu'il y avait véritablement de remèdes, il n'y avait pas de médicaments qui pouvaient aider. Mais de 1996, la thérapie antirétrovirale, qu'on dit la trithérapie, donc la combinaison de trois médicaments dirigés contre le microbe VIH qui provoque le sida. Et donc, il y a de plus en plus de l'espoir. Donc, l'avènement des antirétroviraux, surtout de la trithérapie, a fait naître de l'espoir parce qu'aujourd'hui, les antirétroviraux permettent, n'est-ce pas, d'empêcher au virus de se reproduire, de se multiplier dans l'organisme et donc de détruire de moins en moins les cellules de défense, les CD4. Au-delà de cette efficacité des antirétroviraux, il est possible que demain on puisse bien contrôler le VIH et le sida pratiquement. Donc il y a de l'espoir. Je ne sais pas dire demain après-demain, mais en tout cas, le niveau d'avancement de recherche scientifique et l'efficacité de plus en plus accrue de médicaments antirétroviraux laisse donc entrevoir cet espoir pour l'humanité.
Merci docteur. Avant de revenir justement sur le sida lui-même, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette grande découverte de 1996, la trithérapie? C'était quels trois médicaments combinés? C'était quoi ces trois médicaments?
Disons que avant même 1996, il y a déjà une molécule antirétrovirale, l'AGT, qui était bien connue bien avant, 1985, si je ne me trompe pas. Et donc, cette molécule existait en monothérapie. Donc, elle était utilisée seule. Et donc, avec une efficacité beaucoup plus réduite, on peut s'en douter. Et donc, en 1996, il y a eu l'avènement, donc, de la trithérapie, donc la combinaison de trois médicaments, n'est-ce pas, que devait prescrire aux malades souffrant de l'infection par le VIH, donc du sida. Et donc, l'efficacité a été trouvée pour faire face, n'est-ce pas, à l'infection par le VIH et au sida. Et ce qui a fait que cette trithérapie devenue de plus en plus efficace a permis de pouvoir réduire la charge virale de malades du sida et de réduire la sensibilité, donc la survenue des infections opportunistes, de réduire par ricochet la mortalité et de redonner espoir. Donc d'améliorer carrément la qualité de vie de malades du sida, de personnes vivant avec le VIH. Donc voilà, j'allais dire, si vous me permettez, si les auditeurs me le permettent, donc le miracle des antirétroviraux à travers l'avènement de la trithérapie de 1996.
Mais en quoi consistait justement cette trithérapie, docteur?
En fait, la trithérapie consiste à administrer trois médicaments combinés à un malade souffrant du sida. C'est ça la trithérapie. Donc avant 1996, on donnait aux malades du sida la monothérapie, comme je dis, donc l'AGT, la zidovudine. Mais depuis 1996 à ce jour, mais d'ailleurs à ce jour, on donne non seulement la trithérapie, mais on peut donner la quadrithérapie, la pentathérapie, en augmentant le nombre de molécules. Mais ce qui est de base à efficacité bien accrue, la trithérapie, donc, qui consiste à administrer le médicament antirétroviraux combiné.
Donc, quand une personne a le sida, c'est qu'elle a déjà forcément le VIH, alors que toutes les personnes infectées par le VIH n'ont pas forcément développé le sida. Est-ce vrai?
Mais c'est tout à fait vrai. Donc pour avoir le sida, il faut absolument contracter le VIH. Tout malade du sida, toute personne qui arrive à une maladie, Ça veut dire que cette personne a commencé par attraper le VIH et qui a évolué au fil du temps, au fil des années, à la maladie, au temps de sida. Mais toute personne, c'est repositif, toute personne qui contracte le VIH n'évolue pas forcément vers le stade de maladie, vers le stade sida. Donc c'est là la différence, vous avez tout à fait raison.
Donc la différence, c'est que la maladie ne va pas se développer tout de suite quand on a le VIH. C'est ça que ça veut dire, en fait.
Voilà. Donc c'est ça que ça veut dire, pas ça... tout de suite. Et là, il y a donc plusieurs types d'individus par rapport à leur réponse immunitaire. Donc il y a des individus, des personnes qui attrapent le VIH aujourd'hui dans un temps relativement court. J'allais dire dans 6 mois, dans moins d'une année, etc., ils peuvent passer du stade, infection à VIH vers le sida maladie. Donc ce sont des progresseurs rapides. Alors, il y a des personnes, par contre, qui mettront assez de temps, 2 ans, 5 ans, 10 ans, voire 15 ans, pour passer du stade infection par le VIH au stade sida maladie. Ce sont des progresseurs lents. Et bien évidemment, on doit envisager, et ça existe, ça a été décrit, des personnes qui, au fil des années, j'allais dire durant toute leur vie, ils ne passeront pas vers le stade maladie, sida maladie. Donc ils resteront au stade d'infection. De séropositivité sans faire, par atteindre le stade de maladie, sans développer la maladie. Et donc, vous voyez très bien que ces 3 types de personnes, ça dépend, n'est-ce pas, de la réponse de leur système de défense,
l'organisme,
de la réponse immunitaire de chacun de ces 3 types de personnes. Évidemment, il y a plusieurs paramètres, il y a plusieurs facteurs qui entre en jeu. Je ne sais pas si vous voulez qu'on dise un mot là-dessus.
Bien entendu, docteur. Allez-y. Quels sont ces paramètres?
Bon, mais voilà, c'est que, vous savez, l'immunité, c'est-à-dire la défense de l'organisme, dépend de plusieurs facteurs. Et au nombre de ces facteurs, donc on peut schématiser. Hein, je schématise pour faciliter la compréhension à mes auditeurs et à mes auditeurs. Il y a forcément l'hérédité. L'hérédité, c'est ce que nous avons reçu de nos parents, ce que nos parents ont acquis de leurs parents, donc nos grands-parents, des grands-parents aux aïeux, etc. Donc ça, c'est du point de vue génétique, donc l'hérédité, ce que nous avons acquis, sur lequel nous n'avons pas beaucoup de marge de manœuvre, même s'il faut reconnaître aujourd'hui que le génie génétique est en train de se développer et peut-être certainement que nos maladies héréditaires trouveront des solutions à travers ce développement de la science génétique. Donc, premier paramètre, c'est l'hérédité. Alors, deuxième paramètre qui agit aussi sur l'immunité, c'est l'environnement. Et dans cet environnement, on peut quand même, toujours schématiquement, insister notamment sur l'alimentation. Parce que tout ce que nous appelons anticorps, etc., c'est provient en fait des éléments qui sont constitués en fait de lipides, de glucides, de protéines, etc. Mais ces différents éléments nous proviennent par l'alimentation. Donc, si, point de vue alimentation, il y a problème, vous comprenez que les éléments du système immunitaire vont tout de suite être affectés. Donc l'alimentation, c'est quelque chose de très fondamental pour renforcer, pour entretenir l'immunité. Et c'est là où aussi il faut dire par exemple que chez les nouveau-nés, chez les bébés qui attrapent le VIH, le fait de la transmission materno-fœtale, etc. Et donc le fait que de l'immaturité de leur système de défense, hein, donc les enfants se trouvent vraiment forcément défavorisés. Et si en plus il y a des problèmes d'alimentation, vous voyez que tout toute la défense de l'enfant est compromise. Mm-hmm. Donc, il y a, voilà les paramètres, quelques paramètres qui jouent un grand rôle par rapport à la réponse immunitaire. Ce qui fait que, on peut être deux vrais jumeaux ou trois vrais jumeaux, mais ne pas avoir une réponse immunitaire identique face aux maladies en général, mais particulièrement face au VIH. Mmh. Et donc, voilà comment on peut classifier les différentes personnes par rapport à l'évolution du VIH vers les stades de maladie.
Merci, docteur. Docteur, est-ce qu'on peut dire que les anticorps ne sont fabriqués que lorsque le VIH est là?
Non, pas forcément, ça dépend. Donc, lorsque une personne est infectée par le VIH, il y a une cascade de réactions qui se produit dans les systèmes immunitaires jusqu'à faire mettre en branle ce qu'on appelle les cellules mémoire. Donc, des cellules de défense qui ont la capacité de mémoriser les microbes qui pénètrent. De manière à ce que à une prochaine évasion, que le corps puisse directement, plus vite, réagir plus rapidement du fait de la mémorisation de microbes qui ont pénétré ou qui ont été en contact avec l'organisme avant. Mais donc, devant une primo-infection, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a jamais été en contact avec le virus qui provoque les sida, quelqu'un qui n'a jamais été en contact, c'est ce que j'appelle primo-infection. Mmh. Lors de cette primo-infection, c'est une personne tout à fait naïve, donc le système de défense n'a pas de mémoire. Mmh. Hein? Et c'est à ce moment-là que toute la cascade de réactions immunitaires va se mettre en branle jusqu'à la production des anticorps. Mais lorsque la personne a déjà été, son système de défense a déjà été en contact avec le virus, c'est fort possible que des anticorps soient immédiatement présents du fait de la mémoire.
Ok. D'accord. Je comprends.
La réponse que je peux donner par rapport à ça.
Donc les anticorps sont à l'état passif et ne réagissent que lorsque le virus est là. Donc c'est en quelque sorte des défenseurs, quoi.
Oui, c'est l'armée. C'est l'armée. C'est notre armée, première ligne d'attaque. Quoi.
Voilà. Alors, on dit souvent que quand une personne est séropositive, ça se voit parce qu'elle a des taches sur la peau et qu'elle maigrit. Est-ce que ça, c'est vrai? Est-ce que il n'y a pas que le test qui peut vraiment attester de la présence du VIH ou du développement du VIH?
Ben, disons que la réponse est non. La réponse est non parce que plusieurs infections ou maladies opportunistes qui peuvent se manifester du fait de l'affaiblissement du système de défense par le VIH. Et donc, les signes qui vont apparaître dépendent de la nature et du type, n'est-ce pas, de ces infections opportunistes. Et donc, on ne peut pas aujourd'hui dire du fait de tel signe et tel autre, on signe directement le diagnostic de l'infection par le VIH. Mmh. Donc, le seul diagnostic de certitude, c'est le test de laboratoire, le test de dépistage. C'est vrai, et quand je dis vrai, c'est par rapport aux professionnels de santé, par rapport aux médecins qui ont le flair clinique, qui peuvent, n'est-ce pas, en étant dans un contexte bien précis, il peut soupçonner, avoir de fortes suspicions de l'infection à VIH par le flair clinique. C'est possible, mais en tout cas, le diagnostic de certitude, de confirmation reste le test de dépistage, le test de laboratoire.
Merci docteur. Allez, Botekou.
Oui, je voulais poser encore à docteur une autre petite question. C'est celle de savoir, docteur, si ce que vous dites est fondé, aussi vérifié, parce qu'en fait j'ai confiance à vous, vous avez une grande expérience sur ce domaine. Alors, quelles sont les précautions à prendre pour une personne qui est soumise aux antirétroviraux et qu'est-ce que cette personne peut faire et qu'est-ce qu'il ne peut pas faire?
Docteur,
merci beaucoup Alain, merci pour cette question très intéressante. Mais disons que
le conseil, c'est vraiment sous forme de conseil à donner. Le premier conseil, c'est que de malades qui bénéficient de la thérapie antirétrovirale, du traitement à base de médicaments antivirales, le premier des conseils, c'est de suivre le conseil de leur médecin. Ça, c'est le tout premier. Donc, ils doivent vraiment rester à l'écoute et suivre les conseils que leur prodigue leur médecin traitant. Parce que le médecin, ils sont bien informés par rapport au traitement qu'ils ont prescrit, par rapport aux effets secondaires, s'ils ont des médicaments qu'ils ont pris. Et donc, les patients devront vraiment suivre le conseil de leur médecin traitant. Ça, c'est le premier conseil. Deuxième chose, il faut dire que l'alimentation, la nutrition doit quand même être bien assurée pour pouvoir soutenir ces traitements. Donc, bien, parce que vous savez, le besoin en termes, le besoin nutritionnel sont accrus chez une personne malade ou infectée par le VIH, que des gens cardiologiques sont accrus. Et donc, l'alimentation doit tenir compte de cela, donc il doit bien manger, manger équilibré et respecter le temps, l'espace des rations alimentaires, le temps de repas. Ça, c'est l'autre conseil qu'on doit donner. L'autre conseil, vous savez, comme les autres médicaments, les antirétroviraux d'ailleurs, ont aussi des interactions médicamenteuses. Et donc, par rapport à cela, non seulement des interactions avec d'autres médicaments, mais aussi il y a des interactions avec l'alcool, avec les tabacs. Et donc, dans la meilleure des choses, dans le meilleur des cas, je pourrais donc, à mon humble avis, proscrire l'alcool, proscrire le tabac pour, n'est-ce pas, donner plus de chances aux antirétroviraux d'agir efficacement. L'autre conseil à donner aussi, c'est que l'hygiène corporelle, la consommation de l'eau potable, etc., soit assurément vraiment garantie pour davantage éviter de surinfection, éviter d'autres infections qui pourraient toujours ne pas compromettre la santé en général. La personne devra aussi éviter une auto-stigmatisation, une auto-discrimination qui peut se révéler nuisible à son égard. Donc la personne devra se sentir comme toutes les autres. Et donc vivre convenablement au milieu de ceux sans s'auto-discriminer, sans s'exclure, se discriminer soi-même. Donc c'est très très important cet aspect de choses. Donc voilà ce qu'on peut dresser comme quelques conseils principaux par rapport à ce traitement antirétroviral. Mais l'autre élément que je ne peux pas omettre, c'est que pour le moment, le traitement antirétroviral est un traitement à vie.
Merci docteur, nous sommes à la fin de l'émission. Je salue Alain Botoukou. Alain, merci et au revoir et bonne soirée à Kinshasa. Et nous comptons sur toi pour développer le club des auditeurs de Votre Santé, Votre Avenir.
Merci beaucoup.
Merci Alain. Docteur, je vous retrouverai avec plaisir la semaine prochaine pour parler encore systématiquement du sida. Nous allons parler donc la semaine prochaine des CD4, des antigènes. Nous allons parler aussi de tout ce qui tourne autour.
Pourquoi pas.
Voilà, hein, n'est-ce pas? Oui, bien entendu.
Oui.
D'accord. Merci, docteur. Et donc, je vous retrouve la semaine prochaine, avec plaisir. Merci encore une fois de partager votre vaste expertise, docteur Moyo. Merci beaucoup. Au revoir. Votre santé, votre avenir, c'est terminé. Réalisation, Fatima Kalala, micro Khalil Gay. Au revoir et à la semaine prochaine. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For
temps d'aimer et vivre.